débat et controverse sur BFM Business. Les experts de l'IA. Frédéric Simotel.
Allez, les experts de l'IA, c'est reparti depuis le sommet IA de Lille, un grand sommet. Voilà, c'est l'acte 2 finalement. Vous avez tous en mémoire le sommet de Paris en février 2025, où il y a eu aussi beaucoup de monde. Et bien là, on est dans cet acte 2, mais ça se déroule ici à Lille, dans les Hauts-de-France. Alors pourquoi les Hauts-de-France? Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à montrer ici. On est au sein d'Eura Technologies, qui est un pôle d'entreprise, des startups, des entrepreneurs, des écoles d'ingénieurs. Voilà, c'est vraiment tout le dynamisme autour de la technologie, de l'innovation, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et puis on parle beaucoup des Hauts-de-France depuis quelques jours, parce qu'Atchouf France, SoftBank, a annoncé cet investissement majeur, 75 milliards, dont une première tranche de 40-45 milliards qui serait dédiée à la construction de data centers, de grands centres de calcul IA ici même au sein des Hauts-de-France. On continue notre débat, nous aurons Xavier Bertrand, le président de la région, qui sera là dans un instant, mais nous continuons le débat avec Manuel Davy, président de la Cité de l'IA, Romain Rivaton, CEO de Stonal, et Emmanuel Durand, président du directoire d'Euro Technologies. On a parlé un peu emploi, on a parlé souveraineté avec vous. J'aurais aimé, Romain, qu'on revienne un peu sur les coûts. Parce que là, il y a vraiment, on parlait de token maxing tout à l'heure, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le grand public, on a entendu Google qui disait « je baisse mes abonnements » alors pour essayer d'attirer davantage de gens vers des solutions d'IA. Là, OpenAI, qui pour les entreprises a baissé ses coûts, qu'est-ce qui se passe selon vous?
Et Sam Altman, qui il y a 10 jours a reconnu que la préoccupation des coûts devenait un sujet chez les clients d'OpenAI, alors que ça ne l'était pas chez les grands clients, les gens qui dépensent plusieurs millions par an auprès d'OpenAI, et que ça commençait à devenir un sujet. Donc on voit ce sentiment monter. C'est un peu la question que j'évoquais, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup testé, ont vu des outils magnifiques, et puis à un moment on fait le rapport entre après le test, on regarde ce que ça rapporte et ce que ça coûte. Ça s'appelle le ROI, le retour sur investissement, quand on a un chef d'entreprise. Et force est de constater qu'aujourd'hui, encore une fois, les modèles à la frontière, les modèles les plus avancés, ont des coûts très importants pour des usages qui sont parfois un peu limités, parce que les usages sont réels, mais pas suffisamment générateurs de retour. Et donc c'est un mouvement c'est une petite musique monte de plus en plus aux États-Unis. Alors elle monte au mauvais moment pour OpenAI et Anthropic, puisqu'elle monte à quelques mois avant l'IPO, donc c'est sûr que ça fait un peu frémir. Et puis il y a une blague que je vais juste compter, mais qui est de dire en fait ces fabricants de modèles, ça va devenir des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, c'est des investissements énormes, c'est vital pour l'économie mondiale, personne ne penserait à se séparer d'une compagnie aérienne, et en même temps ça fait faillite tous les 5 ans et ça sort 3% de rendement sur longue période. Donc il y a cette blague qui est de dire voilà, en fait c'est ça. Et je pense qu'on arrive à ce moment où effectivement on va se rendre compte qu'on a une révolution, mais que c'est pas le modèle de langage étendu qui en est la révolution, encore une fois, c'est la façon dont on utilise ça dans toutes nos organisations. Et tout à l'heure je mentionnais les entreprises, mais je pense qu'une des organisations qui aurait le plus besoin et le plus grand usage de l'IA, c'est les administrations. On a quand même les administrations qui pèsent aujourd'hui quasiment 25% de l'emploi en France, qui représentent quand même une grande partie de la valeur ajoutée aussi, et c'est là aussi où l'IA pourrait faire des gains absolument gigantesques.
Ah, on aura l'occasion d'en parler avec Xavier Bertrand, le président de la région de Hauts-de-France, qui nous rejoindra dans quelques minutes. La course à l'IA, justement, Manuel Davy, il y a beaucoup de place à prendre. Hein. On est un peu focus sur les grands acteurs, ou même en France sur des Mistral, on a plusieurs pépites. Mais non, il y a plein de petits domaines dans la santé, dans l'industrie où il y a de la place à prendre.
Cette expression de course à l'IA, elle est un peu trompeuse en réalité, puisqu'elle donne l'impression qu'il n'y a qu'une seule compétition, il n'y a que la finale du 100 mètres, pour dire les choses très simplement. Alors que si on regarde l'analogie avec les Jeux Olympiques, il y a des centaines de disciplines, et l'IA c'est la même chose. Il y a à la fois des millions de cas d'usage, il y a des centaines de technologies possibles différentes, et donc se laisser enfermer dans cette expression la course à l'IA, c'est déjà admettre une forme de défaite, alors que ici à Lille, ici en France, on a des pépites incroyables dans plein de domaines qui sont chacune dans leur domaine des leaders.
Mais pour vous, qu'est-ce qui manque pour que justement on ait ce passage à l'échelle, vraiment et le passage à l'échelle, parce que qui dit passage à l'échelle dit création de valeur derrière.
Absolument.
Et voilà, comment on fait, et je poserai la même question à Emmanuel tout à l'heure, juste après, comment on fait pour aller franchir cette étape et qu'un Mistral qui n'existait pas il y a 3 ans commence, ça y est, à être une entreprise de 1000 personnes, et on espère un plus grand groupe plus tard.
Alors c'est la grande question. hein. Elle est difficile, mais globalement, c'est la maturation de l'écosystème qui va avec la technologie, qui va avec les systèmes de données, qui va avec la culture individuelle des personnes dans les entreprises, qui va avec la culture des dirigeants, qui va être la refonte des process. Donc c'est vraiment cette grande transformation sur laquelle il faut mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de vision aussi, qui est l'enjeu qui permettra ce passage à l'échelle.
Emmanuel Durand, sur ce passage à l'échelle, vous avez connu ça en plus dans vos vies précédentes d'entrepreneurs. Et on rappelle, vous aviez lancé le bureau de Snapchat en France.
En 2016, absolument. Ces notions d'hypercroissance, on les voit, elles prennent beaucoup de place effectivement dans les médias. Effectivement, comme le dit Manuel, une grande partie du bruit médiatique se concentre sur les modèles eux-mêmes, d'accord, sur la guerre effectivement entre Mistral, OpenAI.
Ils savent parfaitement communiquer, ce que disait Robin.
Très très fort tous pour occuper le terrain médiatique. Il y a effectivement, comme tu le dis, Robin, pour moi, un risque de commoditisation de ces outils qui fera qu'en fait, le vrai enjeu, c'est comment s'en saisir, quel que soit le modèle finalement. De manière à créer un maximum d'impact et d'aider à faire construire des nouvelles entreprises. On le voit chez Eura Technologies, une grande partie des nouvelles entreprises aujourd'hui, nativement, vont utiliser ces outils de manière à gagner 10-20%, mais parfois aussi c'est des multiples en termes de productivité, notamment sur la création de code par exemple. On le voit aujourd'hui, un seul chef de projet peut avoir en parallèle beaucoup plus de projets de code, de développement, qu'auparavant. Donc là, il y a un réel atout en fait, de l'IA sur ce qui nous concerne nous ici, qui est l'innovation, et qui peut être perçu parfois comme une menace par les entreprises installées, parce qu'effectivement, l'enjeu d'implémenter ça dans des structures existantes est beaucoup plus complexe que de créer...
C'est ce qu'on dit, il faut ex nihilo. Il faut changer l'organisation.
Absolument. Et donc, quand vous n'avez pas d'organisation, finalement, c'est plus facile.
et les investissements, voilà, parce que j'imagine que... Parce que c'est aussi l'un des moteurs, l'un des carburants pour cette innovation. Ici, Eura Technologies, on arrive à attirer des fonds d'investissement, alors imagine peut-être allemand, enfin nordique.
On est effectivement à un barycentre du corridor de l'Europe du Nord. On le sait, 1h30 de Londres, 1h de Paris, 30 minutes de Bruxelles. Et on sait que la caractéristique de beaucoup de ces écosystèmes sur cette côte, c'est d'être des écosystèmes qui sont relativement petits et entourés par des grands voisins qui sont très semblables un peu à ce que peut vivre la métropole lilloise et la région, et qui donc sont très sensibles aussi à ce qu'on peut mettre ensemble en commun. Et nous, on voit qu'effectivement, il y a une capacité à attirer et à être identifié comme un nœud de réseau sur ces éléments-là.
Xavier Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes président de la région des Hauts-de-France. Donc, magnifique événement ici aujourd'hui à Lille. Data center, énergie, une géographie, on dit un barycentre, on le dit au centre de l'Europe. Les talents, ils sont là, tous les atouts de votre région. Et comment faire justement pour, j'allais dire, passer à l'échelle et aller encore plus vite dans cet univers là où l'innovation est galopante et où les autres ne nous attendent pas.
Comment réussir ? En faisant maintenant l'IA pour tous. Là, on est avec l'IA, elle est avec nous, elle est là avec nous. L'enjeu à partir de ce sommet international, c'est que ce soit vraiment l'IA pour tous, pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille et le secteur d'activité, et pour tout le monde. On a vu avec le sondage, pour les jeunes comme pour les toujours jeunes, que ce soit pour les lycéens, les collégiens, les étudiants, les chercheurs, soit pour les agents publics comme les salariés du privé. Mon obsession, c'est que ce soit une IA qui soit sûre et qui nous permette aussi qu'il n'y ait pas de différence, de creusement des inégalités sur ces sujets-là. C'est mon enjeu, c'est mon défi, c'est ma responsabilité. Le responsable politique, c'est que ce soit vraiment une IA pour tout. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça correspond aussi à une autre volonté. J'ai un principe, je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier. Il y a bien évidemment la réussite, on le sait bien, des batteries électriques dans la région. Mais ce que j'ai vu avec le sommet mondial, c'est qu'il y avait une résonance assez populaire où les gens se disaient, ça a l'air compliqué, mais c'est déjà là et on a le sentiment qu'il ne faut pas passer à côté.
Oui.
Et d'où l'idée d'avoir justement tout cet enjeu avec ce sommet international. Mais vous savez qu'au-delà de ce sommet aujourd'hui, il y aura dans la semaine qui vient plus de 340 opérations dans tous les départements, dans le monde de la culture, dans le monde associatif.
Le festival
dans
le de l'IA, oui.
Exactement, 340 opérations, et c'est là tout l'enjeu. Mais je n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'on a un effort, un devoir de pédagogie sur la question des data centers. De montrer que les data centers, c'est mille fois mieux, pour ne pas dire incontournable, de les avoir chez nous plutôt que dans d'autres pays. Que les data centers ne sont pas des grandes boîtes vides qui consomment de l'énergie et du terrain avec personne à l'intérieur, où il y aurait une personne seulement qui allume le matin et qui éteint le soir. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de personnes, que l'énergie fatale qui est produite est réinjectée dans les réseaux de chaleur et que derrière, c'est de la création de richesses et c'est un potentiel pour nos entreprises à nous. On a ce devoir de transparence et de pédagogie.
Tout à l'heure, Robin Rivaton disait aussi aux administrations de prendre le pli aussi de l'IA, et on le voit tous les jours. Personnellement, on ne va pas rentrer dans ce débat autour de la justice, mais quand j'entends la justice, on est débordé. J'ai entendu personne dire, mais pourquoi on n'utilise pas des outils d'intelligence artificielle? Enfin, je n'ai pas du tout entendu ça. Mais voilà, je prends cet exemple-là, mais il y en aurait beaucoup d'autres.
Je le fais à la région. Je le fais à la région parce que vous savez, quand on prend des délibérations, on s'est aperçu qu'on avait plus d'un millier de personnes qui, à la région, étaient d'une façon ou d'une autre impliquées dans ce processus. Alors, je peux vous dire qu'avec l'intelligence artificielle, ça change les choses. D'autre part, j'ai des agents qui sont chargés de vérifier, comme on dit, la complétude des dossiers. Est-ce que les dossiers sont bien remplis par les communes pour faire les dossiers? Et là, on s'aperçoit avec l'intelligence artificielle que mes agents, non seulement n'ont plus les tâches les plus fastidieuses, mais en plus ont du temps pour apporter un regard humain, apporter un conseil, notamment au maire. Ça change tout. Et je ne vous cache pas qu'au début, je m'étais dit, on va mettre le paquet sur l'IA, quelle va être la réaction? La réaction était géniale. Alors, en revanche, c'est vrai que j'y accorde beaucoup d'importance, c'est le dialogue social, le dialogue social technologique, d'expliquer les choses aux agents, mais aussi, managers, mais aussi aux organisations syndicales, de façon à leur montrer qu'on ne fait pas ça dans leur dos et que c'est transparent. Et c'est vrai que chez nous, on va avoir une modification des métiers, mais avec des agents qui se disent ce qui était le moins emballant, j'ai moins à le faire. Et par contre, le contact, ça, je vais peut-être avoir plus de temps pour ça.
Ça, Manuel Lévy, c'est important de faire comprendre, parce que cette IA, elle frappe. Tout le monde y est confronté. Voilà, ça va être. Moi, je dis même que des plombiers pourront être confrontés un jour avec des petits robots manipulateurs qui vont venir et qui auront une certaine intelligence, jusqu'à même des dirigeants, parce que certains dirigeants disent mais oui, je conseille une IA, même à Mark Zuckerberg en a parlé. Et ça, c'est quelque chose, parfois, on a du mal à le saisir.
C'est un peu comme le téléphone portable sur une autre technologie. On en a tous un dans notre poche. L'IA, elle va arriver dans tous les métiers. Vous l'avez dit très justement, le plombier pourra faire des devis, pourra gérer ses factures avec l'IA. Donc ça concerne tout le monde. Je voulais rebondir aussi sur un élément. C'est une citation de Jean Fourastier, qui est un économiste qui avait étudié la transformation industrielle. Il a dit quelque chose qui est vrai aussi pour l'IA, qui est que la technologie amène l'homme à se spécialiser dans l'humain. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet élément fondamental qui est vrai aussi pour l'intelligence artificielle.
Pardon, Robin, justement ce sujet de que l'IA doit être dans notre quotidien, nous, qu'on soit dirigeant, qu'on soit patron d'une start-up, qu'on soit ou employé dans une administration.
L'une des particularités de la révolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle a débuté par les ménages plutôt que par les entreprises. Et ça, c'est assez inédit. La micro-informatique, les téléphones portables, Internet ont commencé par les entreprises parce que c'était des objets qui coûtaient très cher et sont arrivés chez les ménages ensuite. La mise en ligne de ChatGPT le 30 novembre 2022 a commencé par les ménages, avant les entreprises. Et donc c'est une révolution qui en elle-même est déjà beaucoup plus individuelle que les précédentes. La question, on l'a déjà dit, c'est maintenant comment faire en sorte que le déploiement soit dans les entreprises. C'est pas pour rien que OpenAI et Anthropic ont créé leurs deployment companies récemment. C'est pas pour rien que Mistral met des forward deployment engineers à disposition des grands groupes qui conseillent. Et demain, en fait, il faudrait avoir une dizaine ou une quinzaine d'entreprises qui ne font que ça, que du déploiement au sein des organisations. Et je pense que ce que disait Xavier Bertrand va aussi jouer, c'est pas seulement aujourd'hui les forward deployment engineers, ils ont une vision très mathématiques des choses. Ils vont créer une ontologie, donc un modèle de relation entre les données, et vont faire en sorte que ça marche. Mais en fait, ce que capture pas l'ontologie, ce que capture pas la matrice de relation, c'est qu'il y a des humains. Et les humains, les relations entre les humains, ça, on les capture pas dans le modèle. Les humains, ils ont besoin d'être cajolés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de, parfois, ils s'aiment pas entre eux, et donc, on peut pas les faire travailler ensemble.
Parfois, ils sont fatigués.
Et donc, pour moi, le complément qui va arriver assez vite dans ces modèles de forward deployment engineers, c'est des gens qui vont avoir un côté extrêmement humain. En droit social, évidemment, parce que c'est des enjeux qui sont importants, mais aussi vraiment en quasiment psychologie, c'est-à-dire je comprends un individu et je comprends comment l'individu interagit avec les autres. Et donc très rapidement, en fait, on va avoir cette couche de gens extrêmement On dit souvent les études de psycho savent pas grand chose aujourd'hui, mais je pense qu'au final il y a un débouché absolument énorme, parce que pour qu'une organisation puisse se transformer durablement, ce sera évidemment la compréhension des flux de données à l'intérieur de l'organisation, mais ce sera la compréhension des relations humaines entre les individus au sein de l'organisation.
Emmanuel, oui.
Ce déploiement de l'IA par les ménages est assez intéressant, parce qu'on parle toujours de l'enjeu d'arriver à faire entrer l'IA dans l'entreprise. On n'a probablement pas mesuré le nombre de gens qui utilisaient l'IA secrètement dans leur travail.
Et le shadow AI, comme on l'appelle.
En ayant peur de se faire attraper et en faisant leur propre gain de productivité eux-mêmes pour pouvoir, je sais pas, aller à la plage peut-être. Mais en tout cas, il y a peut-être deux discours en fait sur les peurs et les enjeux liés à l'adoption de l'IA, parce qu'effectivement, c'est un outil qu'on a tous très rapidement, on l'a compris à titre individuel, ce que ça pouvait nous apporter très rapidement en fait.
Moi, ce que je disais à mon dirigeant, il me dit, mais tu fais quoi de tout ce temps gagné? Je dis, ben en fait, je fais ce que je ne faisais pas avant, mais je ne te le disais pas. Voilà, c'est un peu une façon de parler de tout ça. Ça veut dire aussi, Xavier Bertrand, il faut aller. On passe le bac, les jeunes passent le bac ce matin, je crois que c'est les maths ce matin, les mathématiques. Il faut aussi se plonger aussi dans l'éducation, et je sais pas, dès le primaire, il va falloir intégrer tout ça, cette transformation.
Ça, c'est l'un des enjeux principaux. On n'a pas le droit de prendre de retard, et le sondage des labs était très intéressant, qui montre que quasiment 2/3 des Français veulent que l'IA rentre à l'école. Alors encore une fois, pas n'importe comment,
oui.
Il y a l'enjeu des élèves, il y a l'enjeu des professeurs. Et je vous le dis, on lance une opération dans la région pour que les professeurs qui le souhaitent puissent passer un diplôme universitaire en la matière, et la région prendra en charge les frais d'inscription. Alors on va commencer dès la rentrée 26, je souhaite déployer ça au maximum, en lien avec le ministère de l'Éducation. Mais là où ça va être très important pour les professeurs, c'est de bien montrer comment les jeunes, avec l'IA, vont garder leur personnalité,
oui,
vont garder aussi cette mainmise sur l'IA. Il s'avère que je suis toujours enseignant.
Vous l'utilisez vous-même, l'IA, vous l'utilisez au quotidien?
Peu. Et je ne suis pas du tout à résister, mais je veux vraiment qu'on développe cette IA pour tous, mais à titre personnel, peu encore. Mais ça, bien évidemment que ça m'arrive. Mais je le dis parce que je suis aussi enseignant. J'adore cette transmission et j'essaye de montrer aux étudiants combien il est important pour eux de ne jamais se fier à une seule source, mais surtout de continuer à montrer leur personnalité pour qu'ils puissent justement marquer leur différence. Et je pense que c'est foncièrement possible. Là où on a un véritable enjeu, c'est qu'aujourd'hui, vous le verrez, on a voulu avoir des gens qui aiment l'IA, sont pour l'IA, et d'autres qui se posent des questions. Et il y a notamment ce débat en fin de matinée auquel participera Robin, il y a d'autres intervenants, notamment comme Chloé Morin, qui vont donner un peu différentes palettes de rapport à l'IA. Je n'ai pas voulu que ce soit monocolore sur la question, parce qu'il y a des questions clés qui se posent, mais c'est vrai aussi que quand on a des penseurs, des chercheurs, des gens qui ont un temps d'avance comme Robin, ça nous permet de nous poser des questions. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui.
Juste, parce que je crois que vous devez nous quitter d'ici 2-3 minutes. On a les présidentielles qui arrivent. Là, je pense qu'on en parle beaucoup aussi, malgré toute cette actualité. C'est un sujet qui doit être important. Vous dites que vous êtes très peu utilisateur. Je crois qu'on a entendu Edouard Philippe qui le disait aussi. Mais il faut vraiment mettre cette IA au cœur. Alors évidemment, tout le monde on a en tête les retraits. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de bouleversements dans la société. Il faut le mettre au cœur des débats aussi.
Je suis convaincu, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on ait ce sommet, le festival, et on va engager une action de longue haleine, permanente dans la région. Mais je vais même plus loin. Je suis convaincu que le prochain président devra vraiment préparer le pays à cette vague qu'est l'intelligence artificielle. Et pardonnez-moi, parce que le rôle du politique, c'est d'anticiper. C'est aussi de préparer le pays à la vague de l'IA et de la robotique, qui ne sera pas avec tout à fait le même calendrier, mais qui va arriver également, parce qu'on est dans une course de vitesse. Et si on veut que les Français continuent à croire à l'IA et à vouloir en quelque sorte la maîtriser, il va bien falloir leur montrer que nous devons, nous, avoir une obligation sur la formation et sur les nouveaux emplois que nous devons créer. Et pour ça, il y a de la formation. Sur la formation professionnelle dans la région, sur ce que gère la région, je pense que dès l'an prochain, on sera avec un potentiel de 25 000 personnes à former en la matière. Et on met en place un fonds de 100 millions d'euros pour justement les PME de la région pour pouvoir les former. Moi, j'ai cette responsabilité d'être engagé dans cette course de vitesse pour montrer qu'il y aura des changements et qu'il y a aussi des opportunités.
Merci Xavier Bertrand, on va vous libérer. Merci infiniment d'avoir été avec nous, président de la région des Hauts-de-France. On vous laisse déconnecter tous les câbles autour de vous. Merci encore d'être venu sur ce plateau et on poursuit justement avec nos débriefeurs du jour, nos experts de l'IA. Manuel Lévy, donc président de la Cité de l'IA, Emmanuel Durand, président du comité du directoire de Ratechnology, et Robin Ribaton, CEO de Stonal. Xavier Bertrand vient de le citer à l'instant, la robotique, on parle beaucoup de la physical AI, c'est la prochaine étape. Est-ce que Cité de l'IA, on commence à voir, je crois qu'il y aura des démonstrations d'un robot humanoïde ici aujourd'hui. On voit cette révolution arriver. On a vu que Renault va en intégrer 350 avec une entreprise française, Wondercraft. Et on aura dans Tech & Co Business Eric Marshall de Renault qui va nous parler de tout ça. C'est important aussi cette robotique. Il ne faut pas la laisser non plus aux Chinois qui sont en train d'avancer très vite dans le domaine.
Totalement. Les Chinois ont pris une très forte avance sur cette robotique. Mais on a aussi, fort heureusement, dans les Hauts-de-France aussi, des universitaires, des entreprises qui sont avancées. On parlait d'Exotech tout à l'heure. L'enjeu maintenant, c'est rentrer dans l'usine. Alors, il y a une première étape à franchir, c'est de récupérer les données. Et ça va être un vrai sujet, puisque les robots, évidemment, ils ont besoin de savoir dans quel environnement ils évoluent. Et aujourd'hui, il y a vraiment un point de travail des industriels sur la capacité à capter les données qui sont aujourd'hui dans les automates, dans les machines. Mais dès que cette étape sera franchie, alors là, c'est d'immenses possibilités qui leur sont offertes pour automatiser, pour aller plus vite, pour grandir en productivité, comme le disait Robin tout à l'heure. Donc là, on a une nouvelle révolution qui arrive.
Emmanuel Durand, sur les 2000 projets entrepreneuriaux qui étaient entrepris depuis 2009, aujourd'hui je crois que c'est 600 entreprises résidentes ici.
Absolument.
On commence à voir arriver cette robotique IA.
Non, c'est le début. Et puis concernant la robotique, on se concentre sur ce qu'on voit, c'est-à-dire le hardware.
Oui.
Il ne faut pas oublier la couche importante du software, c'est-à-dire
les data.
Tous les robots qu'on voit aujourd'hui ne sont pas autonomes. Ils ont des manipulateurs derrière, des marionnettistes en fait, qui les font marcher. On le voit aujourd'hui, il y a des créations d'entreprises en France comme Amilabs de Yann Lequin, qui développent des modèles qu'on appelle les world models, qui permettent de comprendre, d'avoir une compréhension spatiale.
Notamment beaucoup à partir de vidéos.
Et qui est une différence, pas de niveau, mais de nature, par rapport au modèle de langage actuel. Donc en fait, on le voit, concernant la robotique, il n'y a pas que les joints et les...
Ou des robots qui font des sauts périlleux arrière.
Absolument. Donc en fait, sur ces sujets-là, je pense que la France, l'Europe, la région évidemment, a des choses à jouer puisque les barrières à l'entrée sont moins élevées que dans la capacité à créer effectivement une usine où les investissements chinois ont montré qu'ils étaient extrêmement efficaces.
On a justement, c'est ça la prochaine évolution de l'IA, Robin Gaton, comment vous percevez justement cette robotique qui encore une fois, on se concentre sur les robots humanoïdes parce que c'est toujours impressionnant, mais voilà, c'est des bras articulés, ça peut être plein de choses, c'est de la computer vision, il y a beaucoup de choses derrière cette robotique.
Oui, alors la robotique industrielle existe depuis 40 ans est très très optimisé déjà. Avant les robots humanoïdes, on a des grands fabricants qui font des choses exceptionnelles. Le sujet, je pense, a été dit, le robot en lui-même va, comme le modèle de langage étendu, se commoditiser demain, c'est-à-dire que le fabricant d'actuateurs qui permet de faire tourner un bras, ça sera un produit qui va devenir de plus en plus cheap entre guillemets. Le sujet, c'est encore une fois l'intégration de ces outils, parce que ce ne sont jamais que des outils, dans des processus réels. Et demain, c'est quoi? Ça veut dire un hôtelier avec son hôtel, avec les contraintes des couloirs, des escaliers. Comment il fait en sorte qu'il ait un robot qui vienne plier du linge ou ramasser des serviettes et les remettre sur le porte-serviettes? Et bien ça, c'est vraiment ce sujet entre la connexion entre l'environnement et le robot. Le robot, il va l'acheter chez un fabricant X, Y ou Z. Il l'achètera à un prix qui est un prix industriel qui va déflater au fil du temps. Mais la question de l'intégration de ce robot dans son processus, de se dire, ici, le robot, il sert à rien et il faut plutôt que je garde plutôt un processus humain parce qu'il ne sait pas bien faire ce processus-là. Ou alors, moi, j'ai un niveau de qualité que je veux exceptionnel et le robot, il ne travaille pas à un niveau de qualité exceptionnel. Et donc, en fait, je ne vais pas prendre un robot, mais je vais garder un humain. Toutes ces réflexions-là, pour moi, c'est vraiment là où se situe la valeur. Et il ne faut pas avoir peur en se disant, oui, il y a Unitree, oui, il y a AGBot, oui, il y a peut-être demain Tesla et Optimus. Et on n'a on est moins ou on est plus petit en Europe sur ces sujets-là. Mais encore une fois, le sujet, c'est celui de l'intégration, la capacité à recombiner les processus de production en fonction d'un environnement qui existe, des besoins de clients qui existent et qui ne sont pas les mêmes de Paris à Shanghai, de Paris à Boston.
Ça, c'est vraiment cette anticipation qu'il faut avoir, hein, Manuel Lévy. Je discutais l'autre jour avec une entreprise qui me disait, voilà, nous, on avait une dizaine de personnes qui s'occupaient des notes de frais, un très grand groupe, notes de frais d'entreprise, voilà, qui checkaient les notes de frais. Alors ça s'est peu à peu automatisé, mais voilà, ils étaient quand même là pour parce que le computer vision marchait pas forcément bien. Là maintenant, il y a plus que deux personnes. Ça veut dire que les huit autres, il a fallu leur trouver. Et ils disent on n'a pas assez anticipé. Et bon, ça s'est fait un peu dans la douleur. Il n'y a pas eu de suppression de poste. Mais justement, c'est ça où on a encore du mal aussi.
Alors ça fait partie des actions qu'on mène à la Cité d'IA, c'est d'accompagner la réflexion des ressources humaines justement sur ces projections des évolutions. Et je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a au moins trois compétences que l'IA n'aura pas. La première, c'est la véritable créativité. Et donc, si vous avez une activité créative, vous ne pourrez jamais mettre de l'IA pour vous remplacer à 100%. La pensée critique, donc est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et puis la pensée déontologique et éthique. Et ça, évidemment, la technologie aujourd'hui ne peut pas se substituer à l'humain. Ce qui fait que, pour vous donner un chiffre qu'on a observé récemment sur un cas d'usage, une équipe d'administration des ventes qui fait des devis. L'IA permet de gagner 70% sur la réalisation de chaque devis. Or, on constate qu'au niveau de l'équipe qui ne fait que ça, on gagne seulement 16%. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a toutes ces autres tâches qui sont invisibles,
ouais,
et qui en fait font la réalité du métier. C'est pas juste certaines tâches, un métier c'est beaucoup plus que ça, c'est plus complexe. Et donc l'IA le met en lumière.
Xavier Bertrand disait que toute la semaine vont se dérouler dans les Hauts-de-France pas mal de choses. À la Cité de l'IA, lundi, il y a pas mal de choses aussi.
Alors effectivement, lundi, on a un grand événement, le Tech and Business Day de la Cité de l'IA, qui aura lieu toute la journée à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul et qui permettra d'entendre plus de 60 témoignages d'entreprises qui ont fait des choses dans leurs entreprises. Donc c'est vrai, c'est du concret et c'est du très condensé. Donc ce sera une belle journée très utile à tous les professionnels qui s'intéressent au sujet.
Prochaine étape pour Euratechnologie, enfin voilà, deux, trois grands plans à mettre en place, Emmanuel.
Alors, on vient de lancer un accélérateur qui s'appelle The Square, dont le jury se tiendra le 2 juillet prochain, et qui a vocation à identifier, accompagner des entreprises dans ces domaines à accélérer demain, principalement sur des problématiques, comme je le disais tout à l'heure, de distribution. Mm-hmm. On aperçoit qu'aujourd'hui, il est de plus en plus simple de produire une offre. La distribuer va devenir de plus en plus complexe et donc nous avons comme enjeu de le faire. Je crois que l'IA n'a il y a une promesse fausse de l'IA, c'est que ça va être un grand niveleur de l'intelligence. Beaucoup de gens pensent que ça va devenir une commoditisation de l'intelligence. Je ne crois pas du tout à ça. Il y a à mon sens des gens qui vont se dire chouette, je n'ai plus besoin de penser, l'IA peut penser pour moi, et d'autres qui se disent chouette, je peux, il n'y a plus de limite à ce que je peux apprendre et j'ai envie de demander plein de choses, etc. Donc en fait, j'ai envie de paraphraser ce que disait Françoise Sagan à propos de l'argent, mais je trouve que ça s'applique bien à l'IA, c'est que c'est un bon servant et un mauvais maître.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Emmanuel Durand, président et du directeur d'Euratechnologie. Merci de nous accueillir ici pour ce sommet de l'IA au sein d'Euratechnologie à Lille, d'où nous étions en direct, sur ces experts de l'IA pour BFM Business. Merci Romain Rivaton, CEO de Stonal, qu'on aura l'occasion de voir sur scène pour ceux qui sont ici à Lille dans quelques instants. Et puis Manuel Davy, président de la Cité de l'IA. Merci à tous les trois. Voilà, se terminent les experts de l'IA. Et bien, on poursuit évidemment. Tout de suite, on va parler bourse, on va parler investissement, on va parler immobilier sur BFM Business et on va aussi parler de ce grand événement que BFM Business suit tout au long de la journée, c'est cette entrée en bourse de SpaceX avec, on l'a dit, beaucoup de communication autour de tout ça, mais aussi beaucoup d'argent. Allez, excellente journée sur BFM Business.
Les experts de l'IA sur BFM Business.